mode d'emploi.
Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons aujourd'hui Pierre Flamand du mouvement de la paix, militant mais aussi ancien coprésident de l'association, qui va nous expliquer ce qu'est cette utopie ou ce combat quotidien qu'est la paix. Mais évidemment, il n'y a pas toujours la paix, il va bien falloir écouter Jean-Marc nous parler de ses chroniques d'actualité. Et il commence par parler de radio. D'une autre radio, une radio un peu plus connue peut-être, qui s'appelle France Inter, et qui, il y a quelques années, a limogé Daniel Mermet.
Alors, Daniel Mermet, c'est un personnage, c'est un vieux militant, c'est quelqu'un qui a animé pendant 25 ans, notamment la fameuse émission Là-bas, si j'y suis, qui continue d'ailleurs sur Internet. Émission militante et anticapitaliste revendiquée sur une chaîne publique, c'est quand même quelque chose à noter et à rappeler. Alors, évidemment, il a subi avec toute son équipe différentes brimades au fil des décennies. Et les dernières, ça a été la direction d'Inter elle-même, sous la pression des pouvoirs publics, qui a réussi à déprogrammer donc Là-bas si j'y suis, qui était donc en soirée, pour le mettre au milieu de l'après-midi quand personne n'écoute la radio, de manière à dévitaliser petit à petit Mermet, le débrancher sans en avoir l'air. Mais comme Mermet a décidé d'être encore plus acide à cette époque, eh bien les politiques et la direction de Radio France ont décidé de le limoger pour de bon, et cette fois de retirer de la grille Là-bas si j'y suis et de licencier Daniel Mermet. Alors, Mermet s'est appuyé sur l'AMG. L'AMG, c'est une association très drôle qui s'appelle l'Association des auditeurs modestes et géniaux, qui a fait vivre le programme sur Internet, et ce qui explique pourquoi le programme subsiste des années après sa suppression sur Radio France. Ceci étant, Mermet est un vieux militant, il a donc attaqué Radio France pour licenciement sans cause, licenciement abusif. Il a été vainqueur devant la justice en première instance. Radio France n'a pas voulu baisser les bras, n'a pas voulu payer. Et il vient de gagner, donc il a gagné hier en appel. Et Radio France fait une très très bonne affaire, puisque au lieu de payer à peu près 115 000 euros, Radio France devra en payer un peu plus de 300 000. Donc c'est très très bien pour Daniel Mermet, et je pense que ça va permettre aux auditeurs modestes et géniaux de faire pendant très longtemps encore l'émission. Donc bravo l'artiste, bravo la justice. Avec ceci étant un petit qu'il faut souligner, c'est que dans cette histoire, c'est Radio France qui va payer, alors que Radio France a déjà de gros gros problèmes financiers grâce aux restrictions budgétaires des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 15 ans. Et donc, on pourrait faire remarquer qu'il est dommage que ce ne soit pas les hommes politiques qui ont voulu la peau de Mermet qui payent sur leur cassette ou leur parti politique plutôt que Radio France, c'est-à-dire le service public.
Alors on continue avec l'actualité selon Jean-Marc, qui va nous parler d'un film, je crois, Les Vacances de Monsieur Hulot.
Non, c'est La Vacance de Monsieur Hulot. C'est beaucoup moins drôle. Alors Nicolas Hulot sert comme prévu d'alibi écologique à un président et à une majorité qui n'ont que faire de l'écologie. On peut même dire qu'ils s'en tamponnent, qu'ils s'en battent l'œil dans les plus grandes largeurs. Il faut dire que ce n'est pas souvent qu'on croise dans une gare un arbre qui a réussi. Il faut bien remarquer que les tomates bio sont des feignasses qui ne peuvent même pas se payer un costard. D'où l'inimitié de notre président pour les écolos. Ce ne sont pas des gens fréquentables. Pas grand-chose depuis 6 mois dans l'escarcelle de M. Hulot, le ministre de l'écologie. Une vraie fausse victoire sur Monsanto. Bon, on verra ce que ça donne dans 6 mois quand l'Europe va revoter pour savoir si on interdit, si on met des délais et qui des lobbies ou des associations va gagner le bras de fer. Une lâcheté intégrale sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. Il aurait dû et pu se prononcer dès le départ. Il n'en a rien fait. Il nous voit, il ne se prononce pas, il ne dit rien. Ça n'augure rien de bon pour la suite des opérations. Et surtout, une absence totale de courage et de mesures sur les énergies renouvelables qui sont pourtant au cœur de tout le problème écologique moderne dans les pays développés. Et pas développés d'ailleurs. Apothéose de ces 6 derniers mois de trahison, je cite, j'aménage un peu la phrase, on va garder le nucléaire encore longtemps parce que le charbon, ça pollue. C'est à peu près la prise de position de notre super écolo en chef. Bravo l'artiste, on évitera le charbon, argument fumant s'il en est, mais on risquera 2 ou 3 de Tchernobyl à la place. C'est vrai que ça décrase beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle un ministre et un écolo de choc, ou je ne m'y connais pas. De quoi irradier de plaisir.
Un bon cinéaste se cache derrière ce ministre, c'est cela ? Alors, on continue avec l'actualité et Gaël va nous parler des HLM.
Oui, on a beaucoup parlé de la baisse des APL de 5 euros mensuels, les uns pour dire que c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes, les autres pour dire que 5 euros dans un budget de jeunes précaires ou de vieux aussi, ça compte. Alors, le gouvernement a trouvé la solution. Les locataires des HLM ne seront pas pénalisés car la ponction sera faite directement sur les offices de HLM. Comme quoi, la politique, c'est pas compliqué. Pour les HLM, ça représente globalement une perte de 820 millions chaque année, c'est-à-dire la quasi-totalité de leur capacité d'autofinancement. Pour que ce soit plus parlant, on va donner quelques exemples. À Paris, selon Yann Brossat, qui est l'adjoint chargé du logement, les trois bailleurs sociaux vont perdre 50 millions par an. C'est l'équivalent de la construction de 1600 logements sociaux chaque année. Donc soit on sacrifie des logements neufs, soit on réduit l'entretien et la réhabilitation des anciens. Un autre exemple donné par le journal Politis la semaine dernière, c'est l'office public de HLM Pleine Commune Habitat, en Seine-Saint-Denis, qui gère 18 000 logements, dont 10 000 bénéficiant des APL. Il dégage 8 millions d'autofinancement par an pour construire et réhabiliter. Si on applique la baisse de 60 euros par locataire et par mois, ça réduit de 3 quarts l'autofinancement. Et quand on touche aux capacités d'autofinancement des offices de HLM, il y a un deuxième effet, c'est de réduire la capacité de lever d'autres fonds, notamment par l'emprunt. Pour vous donner une idée de cet effet de levier, en 2015, les HLM disposaient d'une trésorerie de 1 milliard d'euros et ça leur a permis de réaliser 8 milliards d'investissements. C'est d'autant plus dommage que le logement est une des sources du réchauffement climatique et qu'une des pistes d'action issues de la COP21, c'est la rénovation thermique. Et donc ces salauds de pauvres, non contents de gâcher les paysages avec des immeubles dégradés, ils vont continuer à réchauffer le climat, faute de travaux dans leurs immeubles. Le gouvernement a proposé une solution aux HLM. Il y aurait trop d'offices HLM. Il faut donc les fusionner pour être efficace, faire mieux avec moins d'argent, bref, rationaliser. Un discours qui a un air de déjà-vu.
Et mettre au chômage plein d'employés des offices HLM.
C'est un détail. Et selon Stéphane Peu, qui est député PCF, l'idée derrière ça, c'est qu'une fois qu'on aura créé 3 ou 4 grands groupes, une fois qu'on se sera débarrassé des élus locaux qui siègent dans les conseils d'administration et qui influent la politique des offices HLM, une fois qu'on aura récupéré le patrimoine des HLM et mis ça à disposition des 2 ou 3, 4 grands groupes. Qu'est-ce qu'on fera ? Eh bien, on ouvrira le capital de ces groupes et on en fera profiter les copains. Et ça tombe bien parce qu'avec la baisse de l'ISF et la flat tax sur le capital, ben les copains, ils ont quelques milliards à investir. Mais ce serait vraiment faire un procès d'intention que de dire ça.
On voit le mal partout. Mais c'est un petit peu l'hypocrisie générale. Enfin, je ne sais pas de quoi Jean-Marc va vous parler, mais il va nous parler d'hypocrite.
Non, rien, je vous parle de rien, sauf des faux culs, et parce que malheureusement, ils sont très très nombreux, et en cette fin d'année, ils sont archi nombreux. Alors, sur plein de sujets. Sexe, écologie, fiscalité, paradis fiscaux, diplomatie, les colonnes des journaux croulent de bons sentiments. Les plateaux de télé et radio rouillent à force d'être submergés par des larmes, mais rassurez-vous, ce sont des larmes de crocodile. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir les inégalités hommes-femmes, et de s'offusquer des salaires inférieurs des dames, comme de leur promotion plus lente. Il est vrai que cela ne fait qu'un siècle et demi qu'on en parle dans le mouvement social. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir le machisme de notre société, les abus de pouvoir des mâles qui se pensent ou se rêvent dominants, le harcèlement en particulier des hommes en position de pouvoir, si misérable soit ce pouvoir. Au moment où la très grande majorité des députés et des sénateurs vient d'autoriser les ordonnances travail, qui soumettent encore plus les salariés au patron, ce qui mécaniquement augmentera les possibilités des harceleurs et diminuera les voies de recours des harcelés. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir que Tariq Ramadan n'est pas un intellectuel comme un autre, mais un intégriste ignoble et hypocrite qui diffuse une idéologie nauséabonde et mortifère. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir la fraude fiscale, alors que depuis des décennies, tout le gratin mondain, politique, sportif, industriel, fraude massivement en passant par la Suisse, le Luxembourg, l'île de Man, les Bermudes, les îles anglo-normandes, et que sais-je.
On ne dit pas frauder, on dit optimiser.
Oui, de même, on ne dit pas enculer, mais sodomie. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir, encore une fois, les paradis fiscaux. Alors que depuis des décennies, l'Union européenne tolère en son sein le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas ou l'Irlande, qui pratiquent de façon industrielle le blanchiment, l'optimisation justement et le dumping fiscal. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir que le capitalisme et la mondialisation sont deux phénomènes destructeurs et mafieux qui poussent à toujours plus de profits et donc, pour plus de profits, toujours plus de fraude et bien sûr, corollaire d'immoralité. Il est vrai que la notion de veau d'or n'a que quelques milliers d'années, donc c'est un scoop. Les mêmes journalistes et politiques qui encouragent le CETA et le TAFTA et autres accords qui vont soumettre encore plus les États à ces mêmes mafieux de l'économie et de la finance. Je vous parlais de l'arme de crocodile, je crois, on les retrouve. Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir que Nicolas Hulot n'est qu'un pantin prétexte entre les mains d'un Macron représentant des lobbies. Pas franchement écolo, ou de découvrir que le Premier ministre est un ancien d'Areva.
C'est vrai ?
Les journalistes et les politiques font semblant de découvrir la nullité occidentale face au terrorisme, face à Poutine, face à Erdogan, qui mène le bal en rigolant de l'inertie de l'Europe, comme des tweets vengeurs du débile de la Maison-Blanche, pendant que Macron n'a rien de plus urgent que d'aller inaugurer le Louvre d'Abu Dhabi.
Mais je pourrais... Macron, il n'est quand même pas issu d'une banque ou d'un...
Non, pas du tout.
Ah, si, aussi, d'une banque. Ah ouais,
donc,
quand même.
Oui, on peut dire fils de banque, non ? C'est une nouvelle... je pourrais continuer comme ça avec les journalistes et les politiques, leurs fausses condeurs et leurs fausses indignations. Bref, la concentration des faux culs atteint une proportion insupportable pour la santé publique, qui donne des envies de révolte et pourquoi pas de révolution.
Révolution armée, révolution pacifiste, ça sera la suite du débat. Mais là, on va faire une petite pause musicale en écoutant Suzanne Vega, If I Were a Weapon.
Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous recevons ce soir Pierre Flamand, qui est militant, qui a été aussi ancien coprésident du Mouvement de la Paix.
Et bonsoir.
Bonsoir Pierre, et merci d'être là. Nous allons parler un peu globalement de ce qu'est ce Mouvement de la Paix, mais on va commencer par parler de la paix. La paix, qu'est-ce que c'est ? Et pour tout le monde, je crois que c'est une utopie, la paix.
Alors non, la paix c'est pas une utopie, c'est un combat, c'est vouloir mettre en acte un autre monde en fait. On s'accroche à cette phrase des forums sociaux, un autre monde est possible. On ne cesse de nous répéter qu'il y a toujours eu des riches et des pauvres, il y a toujours eu des guerres et des conflits dans le monde et qu'on peut pas changer. Que les Israéliens et les Palestiniens sont irrémédiablement inconciliables. Eh bien non, c'est possible de changer toutes ces données. Alors, il y a des causes aux guerres. Et en fait, la guerre, la paix plutôt, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est un processus constructif. C'est pas parce qu'il n'y a pas de conflit qu'on ne doit pas construire la paix. La paix, c'est chercher l'altérité avec l'autre. C'est chercher la coopération. C'est finalement faire plus d'efforts que de déclarer la guerre. Si je, dans la cour de l'école, j'aime pas ce petit camarade et que je dis c'est un con, je lui parle pas, c'est plus difficile d'aller vers lui et de recréer des liens. Et c'est la même chose au niveau des États. En fait, il faut comprendre les raisons de l'autre. Cette phrase, comprendre les raisons de l'autre, moi, elle m'a percuté alors que je suis, comme d'autres membres du mouvement de la paix, mais je suis allé plusieurs fois en délégation en Israël-Palestine, au cœur du conflit, à la rencontre des forces de paix. Et dans une négociation, multiples négociations qui se passaient en Afrique du Sud, avec l'aide de l'Afrique du Sud, avec son expérience. En fait, les militants de la paix qu'on a rencontrés en ce moment-là, ça devait être en 2009, qui revenaient, donc israéliens et palestiniens, nous ont dit qu'ils avaient appris là-bas, de l'Afrique du Sud, qu'il fallait comprendre les raisons de l'autre. On voit le chemin quand on perçoit la démarche de l'Afrique du Sud, où il fallait faire la paix, alors que c'était un pays exsangue avec le racisme et l'apartheid.
Donc cette utopie, finalement, elle a réussi à être mise en œuvre peut-être pas parfaitement, mais en tout cas, le processus qui a fait tomber l'apartheid est un processus qui est à peu près pacifiste, il n'est pas parfait. Et puis peut-être on voulait parler aussi de l'exemple de l'Europe, finalement. Il n'y a plus vraiment de guerre dans cette Europe où il y a eu la Première, la Deuxième Guerre mondiale au même endroit, la guerre de 70 au même endroit aux frontières du Rhin. Et là, plus de guerre en Europe.
Certes, on peut se réjouir que l'Europe soit devenue un espace pacifié. Hein. Pour des raisons essentiellement économiques d'ailleurs, hein, plus que pour des raisons humaines et sociales, l'Europe a décidé finalement de se pacifier. Parce que finalement, la guerre, c'est synonyme de beaucoup de destruction. Et donc, certes, l'Europe est un espace pacifié. D'ailleurs, l'Europe a reçu le prix Nobel il y a quelques années. Hein. Le mouvement de la paix faisait partie pourtant des mouvements et des associations qui ont critiqué ce prix Nobel. Parce que la paix de l'Europe, elle est gagnée sur la misère des peuples. Les riches et les pauvres, ça continue. Et l'exploitation de l'ensemble du monde, ça continue. Le partage du monde, c'est plus que jamais une réalité. Les ventes d'armes, c'est une réalité. La France est le troisième vendeur d'armes au monde.
Donc en fait, on n'a plus la guerre chez nous, mais on l'exporte bien, quoi. On la vend.
Absolument, absolument. La guerre est une marchandise. Pour nous, c'est un slogan. On répète, les armes ne sont pas des marchandises comme les autres. Et pourtant, notre ministre de la Défense, encore l'année dernière, l'ancien président François Hollande s'est vanté pendant des mois, des années, que la balance commerciale était équilibrée grâce aux ventes d'armes. Or, les armes, ça sert à tuer.
Ah
les
bon
armes. Les armes, on nous fait croire toujours que c'est simple, on les achète, mais qu'elles serviront pas. Et on les vend sans traçabilité. Ça, c'est une revendication aussi du mouvement de la paix.
Pourtant, il existe des balles traçantes.
Absolument. Ben, on a trouvé le moyen d'assurer la traçabilité du vin, du fromage. Et pourquoi on ne fait pas la traçabilité des armes? Curieusement, par exemple, c'est maintenant le secret de Polichinelle, mais les armes qui ont été vendues à la Libye, elles sont d'ailleurs aux deux belligérants, d'ailleurs, qui avaient les mêmes armes. Hein, eh bien, ces armes se sont retrouvées exfiltrées au Mali, hein, ce qui a justifié, entre guillemets, l'intervention de la France au Mali, qui, de notre sens, est beaucoup plus justifiée par le nickel qui se trouve au Niger que par la présence de Daesh.
Alors justement, quand tu disais tout à l'heure comprendre les raisons de l'autre, ce qui me semble extrêmement juste sur le plan individuel, enfin, chacun d'entre nous, si on essaye de comprendre les raisons de l'autre, c'est le grand premier pas à faire. Est-ce que sur le plan politique, les dirigeants savent très bien quelles peuvent être les raisons des autres, mais n'en ont strictement rien à faire, parce que c'est une question de stratégie, c'est une question de tactique politique, etc. Et on va aller soutenir tel pays plutôt qu'un autre, parce que ça arrange nos affaires.
Bien sûr, il y a la guerre à géométrie variable. Hein. Il y a les alliances à géométrie variable. Hein. On a adulé certains Kadhafi, par exemple, hein, avec tapis rouge, tout ce qu'on voudra. Et le lendemain, c'était... Et tout ça, c'est tout simplement parce que la ligne de conduite, c'est le pillage du monde. C'est l'argent. Voilà, c'est vouloir. On n'a pas beaucoup changé des barbares de l'histoire. Hein.
Alors justement, pour changer, donc le slogan du mouvement de la paix, c'est faire des efforts. Le combat individuel pour la paix de mon quartier à ma planète. Et il y a justement 8 points de la fameuse culture de la paix.
Absolument. Alors, le mouvement de la paix, né en 1945, après la bombe atomique, s'est beaucoup engagé donc contre la bombe atomique, contre les guerres, et donc de tout temps a mis en avant l'importance de réduire les dépenses d'armement pour satisfaire les besoins des hommes. Mais je dirais qu'on a eu le bonheur, en fait, d'avoir une théorie, enfin, que l'ONU ait théorisé, en fait, ses principes. Donc, c'est d'abord l'UNESCO, ça a été repris par l'ONU dans les années 2000. Donc, il y a une résolution qui, donc, a nature à être appliquée, bien sûr, par l'ensemble des citoyens, mais aussi des collectivités territoriales, des États, tout le monde devrait appliquer la culture de la paix. Alors la culture de la paix, c'est un ensemble de 8 points donc qui mettent en avant les conditions finalement de la paix. Alors c'est pas du tout les points du mouvement de la paix, je le redis encore, c'est l'ONU. Et donc, ça nous appartient pas. C'est du domaine public. Ça appartient à l'humanité, quoi. Donc, renforcer la culture de la paix par l'éducation. Hein, donc, la résolution pacifique des conflits, le dialogue, l'éducation, c'est-à-dire que ça commence à la maternelle et c'est à tous les âges, quoi. Hein. Deuxième point, promouvoir le développement économique et social durable. Hein. Bon, on sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un développement économique qui va détruire la planète ou ne pas permettre à long terme, finalement, aux populations de vivre. Hein. Bien souvent, on exploite. Et quand on a fini le filon, on s'en va laissant les gens dans la misère. Promouvoir le respect de tous les droits de l'homme. Assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, hein, ça a été évoqué dans la chronique de tout à l'heure. Effectivement, le monde entier croule sous l'inégalité entre les hommes et les femmes. Bon, on peut se demander si les femmes étaient plus dans les postes politiques, s'il y aurait moins de guerres. C'est souvent une on ne sait pas, hein, Madame Thatcher n'était pas un exemple. Bon, ce qui est certain, c'est que dans tous les pays du monde, les femmes, c'est pendant la guerre, c'est elles qui assurent la survie, c'est elles qui assurent la vie, c'est elles qui assurent le redémarrage, c'est elles qui protègent les enfants, c'est elles qui ont après la guerre aussi le courage de reprendre le dialogue. Voilà. Par exemple, en Israël et Palestine, tous les ans, on n'en parle pas, c'était il y a à peu près un mois, il y a une marche des femmes israéliennes et palestiniennes à travers tout le pays. Favoriser la participation démocratique, bien sûr, parce que tout ce qui est mouvement fasciste, ça ne peut pas, c'est un facteur de guerre. Développer la compréhension, la tolérance, la solidarité, c'est un peu ça, comprendre les raisons de l'autre, hein, permettre à l'autre d'avoir une place. Soutenir la communication participative et la libre circulation de l'information et des connaissances. Dans combien de pays les journalistes n'ont pas le droit de citer, et même dans les pays démocratiques, les journalistes sont sous surveillance. Par exemple, comme le Mermet, la quasi-totalité des médias françaises sont la propriété de marchands d'armes. Donc comment peut-on évoquer la culture de la paix dans les journaux ? C'est pas étonnant que finalement ce qui passionne l'opinion publique, c'est les conflits, quoi. Et enfin, promouvoir la paix et la sécurité internationale. Alors je dirais que bien sûr, ça c'est essayer d'éviter les conflits, de construire par la négociation, de réparer, d'avoir des outils internationaux, donc d'intervention. Je dirais que c'était le domaine privilégié du mouvement de la paix. Or, on voit que dans la culture de la paix, il y a 7 autres points qui sont d'ailleurs mis en premier. Et donc, pour bien montrer que la paix, elle est en interdépendance avec les problèmes de l'humanité, tout simplement.
Et en plus de ces points, l'ONU prépare le moyen de régler certains conflits en envoyant les casques bleus, des troupes, on va dire, pacifistes, pour régler, s'interposer dans les conflits. Et elle dépense quand même, on pourrait s'enorgueillir de ça, 8,7 milliards par an pour les opérations de paix. Mais est-ce que tu peux nous dire le chiffre?
Alors certes 8,7 milliards pour le commun des mortels, ça paraît un chiffre très important. Les casques bleus, c'est pratiquement que des pays du tiers-monde qui fournissent les casques bleus. Or, tous les pays devraient fournir des casques bleus. C'est-à-dire que cet instrument qui a été créé en 1945 pour finalement réguler la vie entre... Je dirais que c'est un médiateur entre les États, quoi, pour éviter les conflits. Hein. Avant tout conflit, on devrait avoir recours à l'ONU, chose que les pays ne font pas. Mais en plus, la plupart des pays, beaucoup de pays... essaye de casser l'ONU. On assiste ici ou là à l'idée que l'ONU n'est pas efficace. C'est vrai qu'elle pourrait l'être beaucoup plus, mais si elle n'est pas efficace, c'est la faute des États. C'est pas la faute de l'ONU, quoi. Alors, le chiffre, justement, de 8 milliards 7, ça, c'est le chiffre, effectivement, pour pacifier dans le monde qui est utilisé par l'ONU. Mais en 2016, les dépenses mondiales étaient de 1750 milliards de dollars.
Pour la guerre, pour l'armement.
Pour la guerre, pour l'armement. Voilà.
Et c'est un chiffre augmentation.
Ce chiffre était de 1300 milliards en 2012. Hein. En 2017, il est à 1750 milliards. Voilà. Or, on sait, alors selon les experts, et tout le monde n'est pas, les experts ne sont pas tous d'accord, mais certains disent qu'avec le quart de cette somme chaque année et pendant 10 ans, ou certains disent avec le tiers de cette somme, bon, le quart ou le tiers, peu importe, on pourrait réduire et on pourrait atteindre tous les objectifs du millénaire. Vous savez que on est très bon. On a parlé de Foucault. À l'instant, on dit beaucoup de choses. Bon, on va faire des efforts pour le développement, puis en fait, on le fait pas. Hein. Les objectifs du millénaire, c'était donner l'accès à l'eau à tout le monde, éradiquer la faim, des logements pour tous, etc. Eh bien, avec le tiers ou le quart des dépenses militaires, en 10 ans, tout est résolu. Et malheureusement, il resterait 75% ou 66% des dépenses mondiales pour continuer à s'entretuer. Donc évidemment, nous demandons l'arrêt complet des dépenses militaires. Hein. Il faudrait une armée de l'ONU pour pouvoir, en cas d'impossibilité, qui est des interventions qui stoppent les combats, mais on repart sur la négociation.
Alors on va faire une petite pause car on est quand même la veille du 11 novembre et on parle de guerre, plutôt de paix quand même. Mais si on veut se remémorer la guerre, on peut écouter Nicolas Jules, le bal des piou-piou.
Dansons au garde à vous. Bien raide de tes genoux. Dans les moignons. Les mains dans les moignons.
.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes d'Attaque et des journalistes du PIAF et des membres d'Attaque.
Ou l'inverse. On continue notre interview avec la très bonne intervention pacifique et néanmoins bien prête à se combattre pour la paix de Pierre Flamand, qui intervient pour le mouvement de la paix et qui nous a expliqué que finalement ce n'était pas une utopie, que c'était un combat de tous les jours, et peut-être même un combat au niveau international par l'ONU, pour arriver à instaurer une culture de paix. Alors, tout cela, ça a quand même des réussites, et une réussite très récente, bah, c'est un prix Nobel qui a été donné à une association pacifiste.
Absolument. Le prix Nobel donc 2017 a été attribué donc à ICAN, donc qui est une coalition internationale, International Campaign to Abolish Nuclear Weapon. Donc c'est une campagne pour l'interdiction des armes nucléaires, qui est une organisation qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années seulement. Et qui fait suite à une longue lutte donc de pacifistes. Donc ce prix est pour nous touche beaucoup, bien sûr. Le mouvement de la paix est membre de ICAN. Il existe une déclinaison en France qu'on appelle ICAN France, tout simplement. Donc qui comprend donc des associations, des syndicats, des partis politiques également.
C'est Yes We ICAN.
Alors c'est vrai que quand ça a démarré ICAN, c'était à peu près au moment où Obama avait lancé son ICAN. Voilà, bon.
Il a reçu le prix Nobel pour envoyer des drones.
Voilà. Donc, enfin, c'était un petit peu quelques années après, mais enfin, bon, on estime que c'est pas tout à fait la même démarche. En tous les cas, ce prix, c'est le prix. Nous, on pense qu'il est, c'est la récompense, enfin, la reconnaissance plus que la récompense de l'action, en particulier des Ibakusha. Je sais pas, peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est que les Ibakusha. Les Ibakusha, ce sont les irradiés de la bombe atomique au Japon, donc des bombes atomiques, hein, Hiroshima et Nagasaki, qui étaient à l'époque des bombes très très puissantes, mais qui aujourd'hui sont absolument dépassées. Hein. La puissance nucléaire est bien plus forte qu'à l'époque.
Ce sont des pétards maintenant.
Voilà. Alors, ce terme Ibakusha a été étendu en fait aux irradiés des essais nucléaires, parce que depuis l'explosion de la bombe Hiroshima et Nagasaki, on n'a pas arrêté, hein, et d'autres pays ont continué à vouloir se doter de l'arme nucléaire. Donc le premier État, bien sûr, ça a été les États-Unis, puis ensuite à l'époque l'URSS. Y a la Grande-Bretagne, la France, qui possède l'arme nucléaire, la Chine. Donc nous avons aussi l'Inde et le Pakistan, hein, Israël, et donc la Corée du Nord pour une dizaine de têtes nucléaires. Tous ces pays sont extrêmement dangereux. On joue avec le feu tous les jours, quoi. Alors, ce prix, il est aussi pour l'ensemble des pacifistes, donc du monde entier. Hein. Il y a des mouvements pacifistes dans tous les pays avec lesquels nous entretenons des relations. Et je dirais que c'est une aubaine pour le mouvement pacifiste, cette reconnaissance. Parce que, malheureusement, je dirais, les luttes pacifistes ne sont pas reliées par les médias. Il a fallu que l'attribution de ce prix pour qu'on entende parler du traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors, je remonte le passé, en fait. Donc les premières années, il n'y avait aucun traité. Ensuite, il y a eu un traité qui a été construit, donc qui s'appelait le traité de non-prolifération. Alors, ça veut dire que les pays détenteurs de l'arme, c'était un deal assez injuste. On en est toujours là, d'ailleurs. C'est-à-dire ceux qui sont détenteurs de l'arme. Se sont engagés à limiter et à ne pas renouveler leur armement nucléaire. En contrepartie, on a demandé à tous les autres pays de ne pas acquérir l'arme nucléaire. Seulement, l'article 6 qui prévoit un désarmement de bonne foi, c'est tout ce qui est marqué comme contrainte dans le traité, hein, désarmement de bonne foi, ils ne l'ont pas respecté. Alors, la France officiellement dit qu'elle l'a respecté, comme les autres pays, mais moi je parle de la France parce que c'est le pays qui nous concerne en premier lieu. La France dit qu'elle a respecté le traité de non-prolifération parce qu'elle a détruit des têtes nucléaires, ce qui est vrai au plateau d'Albion et d'autres, comme les autres pays, c'est-à-dire qu'ils ont détruit des bombes qui étaient moins efficaces et on en les a remplacées par des bombes plus efficaces. On en a moins qu'avant, mais elles tuent plus. Hein. Et par exemple, en ce qui concerne la France, 80% des têtes nucléaires sont sur des sous-marins nucléaires qui sont en état d'alerte. Hein, on peut attaquer à tout moment.
Alors que le nouveau traité, c'est pas la prolifération, c'est l'interdiction.
Alors le nouveau traité, c'est la grande nouveauté, et cette nouveauté, elle est venue du mouvement pacifiste et des pays justement non détenteurs, et en particulier de tout petits pays comme le Costa Rica, qui est un pays entre parenthèses qui n'a pas d'armée. Mais l'ensemble de ces pays ont développé l'idée que si un jour on utilisait l'arme atomique, eux aussi ils seraient atteints, quoi. Et donc il y a eu un développement aussi pendant 3 conférences internationales sur les conséquences humanitaires des armes atomiques. Ça a eu lieu au Mexique, en Norvège et à Vienne, en Autriche. Et les conséquences humanitaires ont décrit, en fait, devant l'opinion publique, les désastres. En particulier, un expert international, la Croix-Rouge internationale, a fait une étude en disant que si dans n'importe quel pays du monde il y avait une bombe atomique, de la puissance qui est aujourd'hui, eh bien, il ne pourrait pas intervenir parce que tous les services seraient détruits, les hôpitaux seraient complètement inefficaces, très vite, il y aurait le ciel deviendrait noir, on pourrait plus respirer, très vite on pourra pas manger, on n'aura pas d'eau, on pourra pas se transporter. C'est vain de penser qu'on va avoir de l'aide. Voilà.
C'est Melville. Voilà. C'est Melville.
C'est Melville. Et c'est incontrôlable. Hein. Donc,
d'où ce traité
la seule solution, c'est l'interdiction de l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme le disent les détenteurs de l'arme nucléaire, que la dissuasion, ça crée la guerre, ça crée la paix. Non, c'est un facteur de guerre. Parce que l'arme nucléaire, elle tue avant de l'utiliser, parce que c'est un détournement de fonds gigantesque. C'est des fonds qui sont détournés des besoins des hommes. Et c'est un détournement de fonds parce que c'est une arme qui donne la suprématie, qui donne le droit sur les autres. Quand on détient l'arme atomique, on est du côté des grands. D'ailleurs, les cinq du Conseil de sécurité sont tous possesseurs de l'arme atomique.
Hein. Alors tu nous as bien fait peur avec tout ça, mais qu'est-ce que maintenant le militant qu'on peut être tous, si on a envie de se réveiller un matin, peut faire pour ça? On peut rejoindre le mouvement pour la paix, on peut rejoindre une association pacifiste. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien?
Absolument. Il faut casser, tordre le cou à l'idée que on ne peut pas agir face au danger de la guerre. Il faut être certain que chaque citoyen a un pouvoir. On nous met dans la tête, hein, que comme sur d'autres aspects d'ailleurs, hein, des aspects sociaux, on met beaucoup en avant, il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres, et ça changera pas, il y a toujours eu des guerres, et il y en aura toujours. Eh bien non, ce n'est pas une fatalité. Tout ça, c'est le résultat de décisions politiques. On peut changer les choses. Les guerres, elles naissent dans l'esprit des hommes, et elles peuvent être détruites dans l'esprit des hommes. Il faut le vouloir. Voilà. Et donc, j'invite, moi, les auditeurs, rejoignez le mouvement de la paix, rejoignez d'autres associations pacifistes.
Donc le quotidien du mouvement de la paix ou des associations pacifistes, bah, finalement, c'est des marches, c'est des combats de terrain pour essayer de faire parler dans les médias de la culture de la paix. C'est l'éducation populaire, en quelque sorte. C'est aller voir les enfants dans les écoles, faire des mini-conférences accessibles à tous pour expliquer ce que tu viens de nous expliquer sur la possibilité de se réapproprier la démocratie. Tu parlais tout à l'heure d'arriver à reprendre pouvoir de l'individu pour dire ce n'est pas une fatalité la guerre. Par exemple, aujourd'hui, la guerre est décidée par le président de la République en France.
Absolument. On part en guerre en France sur simple décision du président de la République. C'est la seule nouveauté qui existe depuis 10 ans, c'est que au bout de 6 mois, donc le gouvernement doit devant l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale n'est même pas consultée, non seulement les citoyens, mais même les élus de la nation. Hein. Donc au bout de 6 mois, le gouvernement vient devant l'Assemblée nationale et explique où on en est, en fait, de ces 6 mois de guerre. Et voilà. Donc ils peuvent poser des questions, mais la guerre est engagée, les morts sont... Voilà. Hein. Autre chose, l'arme atomique que la France possède, c'est pas le résultat d'une décision des citoyens français. Nous demandons une transparence là-dessus. Un sondage donc qu'on a fait avec l'IFOP déclare que 81% des Français voudraient l'arrêt de l'arme atomique.
Donc si je prends une liste de revendications possibles, ça serait que l'Assemblée puisse prendre des décisions et en tout cas être consultée à chaque conflit, qu'on arrête de produire des bombes et puis d'arrêter la politique d'incitation à vendre des armes et de faire et d'être fier même que la France produise des armes et les vende, d'avoir un ministère transversal qui viendrait essayer d'amener cette culture de paix dans le ministère de l'Industrie comme dans le ministère de l'Éducation nationale. Quitter l'OTAN et même essayer de faire dissoudre cette organisation très belliqueuse et de, par contre, de faire que l'ONU se développe et ait les moyens de son action. Et puis, évidemment, de rééquilibrer tous ces budgets. Quand on voit ce que tu disais, toute la quantité d'armes vendues, comment arriver à réduire. Alors, il nous reste peut-être une minute ou deux. Est-ce que tu veux nous dire un peu comment rejoindre spécialement le mouvement pour la paix, site web, une action prochaine?
Alors, si l'information sur le mouvement de la paix, c'est sur le site mvtpaix.org. Vous y trouvez toutes les campagnes, tous les domaines donc d'action du mouvement de la paix, tous les rendez-vous. Il y a également la liste des comités, des 200 comités qui se trouvent en France, avec les correspondants, etc. La date prochaine pour nous qui est très importante, c'est la date justement de remise du prix Nobel le 10 décembre où nous voulons finalement rendre public. On voudrait que ce jour-là, l'opinion publique ait conscience que ce prix Nobel, c'est redonner la parole aux citoyens.
Eh bien, on te remercie pour toutes ces belles phrases et qui donnent finalement plus confiance en l'homme qu'en la guerre. Hein. On enchaîne avec Patrick qui va nous faire une lecture d'une leçon de morale.
Oui, parce que quand même, c'est très triste tout ce qu'on entend et on voit bien qu'on ne voit pas où il y a de solution. Les riches trichent, d'ailleurs ça rime, n'est-ce pas ? Les pauvres renâclent à travailler de plus en plus.
Honte à eux.
Oui, c'est absolument honteux, donc il faudrait un petit peu de morale. Et comme Clarisse Juranville, dans son savoir-faire et savoir-vivre, guide pratique de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles, paru à la librairie Larousse en 1879, nous dit ceci.
Oui, pour belle une référence.
Fois, oui, absolument. Et pour une fois, le texte n'est pas de moi. Il y a quelques années, une maîtresse de pension des environs d'Orléans voulut agrandir son établissement devenu trop étroit, vu le nombre toujours croissant de ses élèves. Elle fut obligée aussi d'augmenter considérablement son personnel, qui jusqu'alors avait été fort restreint. Un matin qu'elle était seule dans son cabinet, assez soucieuse en pensant aux charges nouvelles et lourdes qui allaient lui incomber, elle vit entrer Sophie, sa fidèle bonne qui ne l'avait pas quittée depuis 20 ans. Elle était accompagnée de 4 autres personnes. En arrivant vers sa maîtresse, Sophie s'exprima en ces termes. « Mademoiselle, j'ai bien cherché depuis quelque temps parmi mes amis et connaissances des servantes qui puissent vous convenir et m'aider dans mon emploi. » Heureusement, je les ai trouvées. Nous voici donc, toutes 5, disposées à travailler de notre mieux et à vous seconder dans l'œuvre que vous avez entreprise. Seulement, mademoiselle, nous mettons une condition à notre engagement. C'est que vous ne nous donnerez pas de gage. La maîtresse, émue, les yeux remplis de larmes, se lève vivement, va serrer la main de chacune de ses généreuses filles et leur dit « Mes enfants, j'accepte votre dévouement. Merci. » Ayons confiance en Dieu, il nous bénira. Et les bonnes filles s'en vont radieuses, vaquer à leur nouveau devoir. La maîtresse de pension, respectant la délicatesse de ses dévouées servantes, ne leur a jamais payé de gage depuis ce jour. Seulement, tous les ans, elle leur offre une somme en rapport avec la prospérité de sa maison. Et l'auteur de continuer, dans nos temps d'égoïsme et d'amour de l'or, on est heureux de trouver de pareils traits de désintéressement. Et l'on se dit avec satisfaction qu'il y a encore de belles âmes dans notre France. Car qui de nous, passant le soir dans un village, devant quelques demeures de paysans, et apercevant à travers les vitres le foyer flambant, le couvert mis sur la table, n'a point pensé avec une sorte d'attendrissement que j'appellerais poétique à ce pauvre ouvrier, bientôt de retour, qui, après un long jour employé à remuer la terre ou le plâtre et à frissonner sous la pluie, allait rentrer dans cette petite chambre si nette et reposer ses yeux et son cœur fatigués de tant de travaux rebutants. Peut-être ne se rend-il pas compte de ce sentiment de bien-être, mais il l'éprouve. L'homme de pensée lui-même, après de longues et arides méditations, ne trouve-t-il pas une sorte de repos qu'il idéalise dans la vue des occupations ménagères ? La laiterie où le beurre s'arrondit en miches brillantes et parsemées de gouttes de rosée. La grande cuve où bout le linge, la bassine où cuisent les fruits mêlés de sucre, sont autant d'objets qui calment, qui touchent même d'une émotion sereine, comme tout ce qui tient à la nature et à la famille, comme la vue d'une vache qui broute, ou bien d'une plaine où se fait la moisson. D'ailleurs, les anciens eux-mêmes sentaient et exprimaient admirablement cette poésie domestique. L'Odyssée ne nous charme jamais davantage que quand elle nous offre dans Nausicaa et dans Pénélope la princesse unie à la femme de ménage. Et Xénophone n'a rien écrit de plus exquis que le tableau des joies de la jeune mère de famille. Et alors Clarisse Juranville, en bonne pédagogue, ajoute 2 sujets de rédaction à son récit. Je vous les cite parce que tout de même, je crois que vous pourriez vous y exercer, chers auditeurs, chères auditrices notamment. Premier sujet, résumez le rôle de la mère au foyer domestique et faites voir l'influence sur le bonheur de la famille. Deuxième sujet, racontez comment une bonne ménagère peut arriver, avec un budget restreint et des ressources très limitées, à tenir son rang dans la société et à subvenir aux besoins de sa famille. Je n'ai pas changé un iota de ce texte.
C'est beau comme du Macron. Alors, si vous ne voulez pas que ces phrases puissent être encore redites, il faut aller manifester, militer dans toutes les associations possibles. Et justement, on attaque avec l'agenda militant en 2 minutes.
Alors, à Montreuil, dimanche 12 novembre, à 14h, 34 rue des Messiers, il y a une manifestation pour la fermeture immédiate de l'usine toxique SNEM de Montreuil, qui utilise beaucoup de produits cancérogènes.
Et le soir, une projection débat du documentaire de Carole Poliquin, Le bien commun, l'assaut final, organisé par Paris, Attaque Paris 1920. C'est au centre d'animation Kensaro Wiwa, 63 rue Buzinval à Paris, à 19h30.
Lundi 13 novembre à 20h, cinéma Les Sept Parnassiens, projection débat avec Attaque Paris 14e, inspecteur du travail, une rencontre, film documentaire, alors que le droit du travail va être radicalement bouleversé sur ordonnance, 10 inspecteurs du travail prennent la parole.
Cinéma également le lundi 13 à 20h30 et le mardi 14 novembre à 20h30 au cinéma Les Trois Luxembourg à Paris. Projection débat Irine Sina, le cri de la génération climat.
Mercredi 15 novembre à 19h30, Les Grands Voisins dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, 82 avenue d'Enfer Rochereau. Patu Kada activiste, ROR, initiation, musique. Le collectif est un groupe de musique, mais aussi un réseau militant.
Jeudi 16 novembre à 10h30, devant la Cité internationale universitaire, il y a un rassemblement pour la régularisation de tous et toutes les étudiants. Le RUSF, Réseau Universitaire Sans Frontières, réclame la régularisation de tous et tous les étudiants sans titre de séjour, conditions de vie et d'études. Bref, tous, tout étudiant et à des papiers.
Et jeudi 16 novembre à 14h, manifestation à Paris contre la politique libérale de Macron, à l'appel de beaucoup d'organisations, FSU, CGT, lycéens étudiants, solidaires, FO, et c'est à 14h, place de la République, en direction de Nation.
On arrête là, je termine par un dernier point, ça sera en direction du 10 et 12 décembre prochain, il y a une mobilisation pour le climat, toutes les associations ensemble, 350 points d'Alternative à les Amis de la Terre, Attaque, France, le CRID, Réseau Action, etc., mobilisation de masse pour faire entendre haut et fort notre voix alors que la France accueillera le 12 décembre un sommet international finance et climat. Il y aura le 21 novembre au 23 rue Château-Landon à 19h une réunion de préparation pour tous ceux que ça intéresse. Et on remercie tous les participants à l'émission, Pierre Flamand qui est venu nous parler du mouvement de la paix, Patrick, Jean-Marc, Alex qui n'a pas pu faire sa chronique, Gaël, et à la technique Jean-Yves et Ludo. On termine en écoutant une chanson qui a bien entendu en lien avec ce 11 novembre et ce thème de la guerre et de la paix, Sans armes, sans haine et sans violence, avec HK et les Saltimbanques.
De résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face.